Je suis sociologue de l'économie et directrice d'études à l'EHESS. Et Camille Roth est à la fois sociologue et informaticien. Il est directeur de recherche au CNRS, il est donc au centre Marc Bloch. Donc c'est un travail qu'on a fait tous les deux et que je vais donc vous présenter. Alors c'est un travail en cours. Hein. Donc, le but, ben, vous allez voir, de toute façon. Allez, on y va. Ah, merci, Fabrice. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de faire une sociogénèse, c'est-à-dire comprendre la façon dont un monde social, c'est-à-dire un ensemble de personnes, de professions qui coopèrent, se constitue autour de la question de l'impact investing. Alors, tout le monde sait ce que c'est que l'impact investing, normalement, dans ce cycle de rencontres, mais je vous donne juste un des slogans, c'est pas le seul, donc Making Money and Doing Good, donc ce projet de pouvoir faire réaliser des investissements qui à la fois offrent un rendement financier et un rendement social ou fournissent un impact social. Donc l'objectif, c'est de décrire donc, la constitution progressive de ce monde social organisé autour de l'impact investing. Donc, son développement dans le temps, son développement dans l'espace, notamment de façon transnationale, et puis essayer de regarder s'il y a des configurations nationales dans la façon dont ce monde social se constitue. Comprendre qui sont les acteurs, quel type d'acteurs, quand est-ce qu'ils rentrent en scène, quel rôle ils ont dans la formation de ce monde. Comment ils se positionnent, notamment par rapport à des mondes connexes, alors ce qu'on a appelé la finance classique, c'est-à-dire les grandes banques, les grands assureurs, etc., par rapport à la finance sociale, donc en France, ça serait la finance, ce qu'on appelle la finance solidaire, c'est-à-dire une finance, parce que le monde et les activités sociales ont toujours eu besoin de finances, il y a toujours eu besoin de banques, d'investissements, etc. Donc pourquoi l'impact investing, l'impact investing va venir donc modifier ces acteurs historiques qui étaient installés sur le financement des activités sociales par rapport à l'écosystème start-up, par rapport au monde de la philanthropie, etc. Voilà. Et quatrième objectif, alors évidemment, je ne vais pas tous les remplir aujourd'hui, mais c'est pour vous donner décrire les ressorts de la réussite, c'est-à-dire comment ce concept et l'ensemble des acteurs qui s'organisent autour de ce concept, on peut dire qu'ils ont connu une forme d'institutionnalisation, de reconnaissance, notamment parce qu'il y a des métiers qui se sont constitués. Voilà. Alors, là encore, vous êtes tous censés connaître ce dont nous parlons, mais je vais quand même faire un peu de chronologie pour ceux qui ne sauraient pas. Donc l'origine de l'impact investing, c'est une double origine. La première origine, c'est l'origine américaine, avec notamment l'initiative de la Rockefeller, la Fondation Rockefeller en 2008, qui a duré 4 ans. La Fondation a donc mis 38 millions de dollars pour construire et fabriquer ce marché. Donc, ils ont commandé beaucoup de rapports. Tous les premiers rapports qu'on a sont commandés par cette fondation, donc Rapport Monitor, du JP Morgan, etc. Donc, c'est avec ce premier effort que se crée donc le GIN, qui a un rôle important. Et la fondation va aussi utiliser les fonds de son capital pour financer les premiers fonds d'impact. Donc là, on est aux États-Unis, donc en 2008. Et puis, il y a une autre origine, qui est l'origine anglaise, qui est un peu différente, puisque elle tourne autour notamment d'un acteur central qui est Sir Ronald Cohen, qui a été un des fondateurs d'Apax, donc un des premiers ou le premier fonds de private equity en Europe, et qui, disons, dans la deuxième partie de sa vie, ou la troisième partie, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est tout jeune, il a décidé d'utiliser finalement ses compétences, ses savoirs du private equity pour s'occuper de la question sociale. Donc là, je ne vais pas vous passer en revue tous les grands événements, mais à peu près à la même époque, donc 2008, c'est au travers d'une initiative qu'il a contribué à fonder que vont se créer, va se faire la première expérimentation des social impact bonds en Angleterre avec la prison de Peterborough. Et puis, c'est aussi Sir Ronald Cohen qui va présider, ça c'est aussi un moment important pour l'histoire française sur lequel on viendra après, qui va présider la Social Impact Investment Task Force du G8. Donc le G8 à cette époque est présidé par le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni propose qu'il y ait cette task force internationale qui se monte, qui est présidée donc par Sir Ronald Cohen. Et les 8 pays du G8 vont produire en 2014 chacun un rapport national. Donc on va avoir notre rapport national en 2014, présidé par Hugues Sibylle, qui est en fait un moment très important d'importation en fait de ces idées en France. Voilà. Donc ça c'est pour vous donner donc ça c'est un graphique Google Trends sur Google. Donc on voit le décollage de la notion en 2009. Donc on est toujours dans, et puis disons sa réussite au moins en termes de quantité d'informations. Donc ça, c'est un autre travail que j'ai fait avec une collègue allemande, Lisa Knoll. Donc là, on a compté le nombre d'articles académiques, peer review articles académiques qui ont été publiés sur ces questions. Donc, et donc, vous voyez donc une croissance aussi importante. Donc, sachant que les articles académiques ont à peu près 2 ans de retard par rapport au moment d'enquête. Et puis, donc, juste, ça me semble très important parce qu'on le voit dans les entretiens. Donc, ça décolle en 2008-2009. Et donc, il y a quand même un point qui est très important, c'est que ça se construit juste dans l'après-grande crise de la finance. Alors, c'est des choses qui ne sont pas complètement documentées, mais en tout cas... parce que je passe une partie de mon temps à lire les travaux académiques sur ces questions-là, donc les chercheurs qui ont fait des entretiens sur les premiers fondateurs ou ceux qui se sont lancés dans l'impact investing, notamment en Californie, etc., en Angleterre, il est clair qu'au moment de la crise de la finance, il y a eu énormément de licenciements. Des gens qui travaillaient dans la finance ont une crise de sens, en disant, mais jusque-là, je pensais que c'était bien, mais on a failli quand même mettre le système financier par terre. Et donc, ça va donner, il y a un afflux à la fois de compétences à employer, de gens qui se posent des questions. Donc, c'est une partie du ressort sociologique qui est derrière. Et puis, il y a une autre partie qui est que, disons, les financiers les plus établis, eux, sont dans une situation de crise importante de légitimité. C'est par exemple le cas aux États-Unis, où on va voir notamment Goldman Sachs qui va s'investir dans tous les sens du terme, dans la promotion de ces idées-là, qui est aussi une façon en partie d'expliquer que non, la finance qu'ils font, elle peut être aussi au service du bien commun, etc. Donc ça, c'est quand même un contexte qui est intéressant sur le plan, disons, politique. Voilà. Alors, maintenant, je vous ai situé l'impact investing dans l'histoire. Enfin, dans l'histoire récente. Je vais prendre un tout petit peu plus de recul pour vous situer ce moment-là dans un ensemble de transformations plus large. Donc, au tout début de la chronologie, on va trouver des choses qui sont très anciennes. Les pratiques de l'économie sociale, donc les coopératives, les mutuelles, les associations. Donc voilà, ça remonte au moins au 19e. Les pratiques de philanthropie et puis les États-providence qui se mettent. Donc tous ces acteurs-là agissent, interviennent, enfin c'est très vague, mais interviennent sur les questions sociales, s'occupent des questions sociales d'une manière ou d'une autre. D'accord ? Et donc je vais faire un grand bond en avant puisque je vais arriver en 1980 et on va commencer donc l'arrivée d'un certain nombre de pratiques vont construire le monde de l'impact investing. Donc, une des premières pratiques qui nous intéresse, c'est la question de l'entrepreneuriat social qui s'invente aux États-Unis, en Californie, dans les années 80. Donc, à cette époque, le principe, c'est que des entrepreneurs qui ont réussi, disons, dans les affaires, dans l'écosystème californien à cette époque, et l'ensemble de se disent que une bonne manière de résoudre les problèmes sociaux et les problèmes, notamment les inégalités, etc., et une bonne manière de give back to the community, pour parler comme les Américains, c'est d'utiliser les compétences entrepreneuriales, cette fois pour résoudre des questions sociales. Quand ils font ça, ils montent des entreprises classiques, des entreprises de capitaux, donc qui ne sont pas dans le contexte de l'économie sociale classique, ce ne sont pas des coopératives, ce ne sont pas des mutuelles, ce ne sont pas des associations, c'est des entreprises de capitaux dont l'objectif est de répondre à un certain nombre de questions sociales. Donc c'est la naissance qui va donc ensuite se développer très largement de l'entrepreneuriat social. Toujours aux États-Unis, on a un peu avant le développement de l'investissement socialement responsable. Et puis, du côté des politiques de développement, alors pourquoi je mets les politiques de développement ? Parce qu'une grande partie, au niveau mondial, une grande partie de l'impact investing est portée par les institutions de développement. Donc, on a aussi besoin de comprendre comment ça peut s'articuler aussi avec les politiques de développement. Donc, ce qui se passe, ce qui est très important, c'est là, je ne vais pas dire la naissance du microcrédit, parce qu'en tout cas, la naissance du microcrédit comme solution au développement tel qu'il est pensé, notamment autour de Mohamed Younous, etc. Donc là, il y a une littérature critique sur le microcrédit qui vous dirait que Mohamed Younous n'a pas inventé le microcrédit, mais je vais fermer cette parenthèse. En tout cas, c'est cette idée-là, cette pratique. Donc, et puis, donc je vous ai mis donc, le développement durable, Brundtland 87, et enfin, du côté du secteur public, on a le fameux tournant néolibéral avec l'arrivée du New Public Management. Donc là, l'impact investing n'est pas encore dans l'histoire, mais ça ne va pas tarder à arriver. Donc, disons 20 ans de ce type de choses, avec des tas d'évolutions à chaque fois. À partir de 2000, des choses se complexifient, puisqu'on a les premières notations extra-financières qui s'instituent. Alors, peut-être Christian me dira non, c'était avant, mais j'en reviens, voilà. Dans le champ des politiques de développement, on a la première conférence de Monterrey en 2002 qui nous explique qu'on ne va pas y arriver à financer le développement avec l'argent public et que donc il faut aller chercher des systèmes innovants, donc MDG, c'est Millennium Development Goals, donc on est dans ce tournant des politiques de développement. Les politiques de RSE, donc, commencent à se déployer très fortement à partir du début des années 2000. Une bonne date, ça doit être 2002, c'est le lancement du Global Compact, par exemple, au niveau de l'Union européenne, et puis l'arrivée de nouvelles pratiques de philanthropie, aussi dans ces années-là, avec par exemple la fondation Bill Gates qui se crée en 2000. Voilà. Vous voyez, c'est quand même tout ça, c'est assez récent. Hein. On a juste un recul de 20 ans, ce qui est à l'échelle de la. Voilà. Et puis, donc c'est à peu près l'époque où en France, on voit arriver à la fois l'entrepreneuriat social, les pratiques d'investissement socialement responsable, la RSE, etc., début des années 2000. La crise financière, 2007. Et donc, ensuite, les deux événements qui nous intéressent, le premier Social Impact Bond, la Rockefeller Initiative et donc le développement qu'on va avoir derrière. 2014, le fameux rapport du G8. Et à partir de là, l'arrivée en France donc, de l'impact, le rapport français, l'appel à projet du Social Impact Bond, le premier appel à projet en 2016, et puis des choses qui vont donc nous intéresser aussi, pas aujourd'hui, mais qui sont importantes dans cette sociogénèse, qui est ce qui se passe en 2015 avec la COP21, la signature des Sustainable Development Goals, et puis voilà. Après, il y a l'histoire de la finance verte qu'on ne va pas commencer, mais enfin, avec la première OAT verte en France. Donc, pourquoi on a besoin de tout ça ? Parce que pour comprendre l'impact investing, il faut comprendre que la philanthropie elle-même s'est transformée. On verra tout à l'heure qu'elle a un rôle très important dans la naissance de ces idées, ne serait-ce que parce qu'elle finance les premiers rapports. Et puis que l'impact investing va s'appuyer sur cette dynamique-là, qui était la dynamique de l'entrepreneuriat social, avec l'idée qu'une entreprise à but lucratif pourrait venir répondre à des besoins sociaux de façon fondamentale. Pour le dire rapidement, on pourrait dire que l'impact investing, ce n'est jamais que disons, la version venture capital, en tout cas, on peut, c'est une des hypothèses qui se connecte à l'entrepreneuriat social. Hein. On termine l'écosystème, en quelque sorte, pour les entrepreneurs sociaux. Et donc, il faut l'écosystème des financiers. Donc, voilà. Donc, c'est une interprétation. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, notamment en France. Mais... Voilà. Bon, ça, c'est pour la chronologie. Alors, la recherche. Donc, moi, mon objectif, c'est de raconter cette histoire. 40 ans d'histoire, plein de fils, le financement du développement, l'histoire de l'entrepreneuriat social, l'histoire de la finance sociale. Et puis, au milieu de tout ça, on a ce mot qui arrive, impact, social impact investing, etc. C'est une histoire mondiale, c'est une histoire transnationale, puisque on a les États-Unis, on a l'Angleterre. Et donc, comment faire pour raconter cette histoire? Je peux lire des rapports de la littérature grise pendant des années, mais il me fallait, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait quand même que je puisse totaliser, je puisse rassembler tous ces fils. Et donc, en discutant avec Camille Roth, je cherchais une manière de faire un corpus, de faire quelque chose, on s'est dit, finalement, on va faire ça avec Twitter. Alors, donc, pourquoi Twitter? Parce que ça permet d'attraper une très grande quantité d'acteurs divers. Donc, avec Twitter, on va lancer une recherche pour récupérer un très grand périmètre d'acteurs et un corpus textuel. Et puis, pourquoi Twitter? Pour l'impact investing, mais parce que l'impact investing est très présent. Pourquoi c'est très présent sur Twitter? Il y a des tas de pratiques financières qui ne sont pas présentes sur Twitter. Hein, mais celle-ci, elle est présente sur Twitter. Pourquoi? Parce qu'on est face à des acteurs qui essayent de pousser une nouvelle pratique, qui essayent de fabriquer un marché. Ils apportent un nouveau vocabulaire. Et donc, ils fabriquent des contenus. Ils fabriquent du contenu, ils fabriquent du savoir, etc. Donc, ils doivent pousser ces idées. Et donc, ils ont besoin d'un média. Alors, pourquoi pas le média Twitter? Il n'y a pas que ce média-là, mais en tout cas, c'est besoin d'un média. Et c'est aussi des acteurs qui vont raconter leur projet d'impact investing, un peu comme on le ferait des acteurs de mouvement social. Donc, il y a un travail d'évangélisation. Ils vont fabriquer des causes. Ils vont constituer des coalitions. Ils doivent déplacer la morale. Et donc, tout ceci fait qu'ils ont besoin, en quelque sorte, de cet accès à l'espace public pour reconfigurer les choses. Et donc, aller attraper la configuration, la naissance d'un monde professionnel, social, sur un média de ce type-là, ce n'est pas totalement insensé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils font, tous ces gens qui parlent d'impact investing sur Twitter? Eh bien, comme on va le voir tout à l'heure, ce sont essentiellement des professionnels engagés dans l'impact investing. Il y a très peu de monsieur et madame tout le monde qui s'en occupent. Donc, ce sont des gens qui, pour des raisons professionnelles, s'occupent d'investissement à impact. Donc, un certain nombre, alors, ils ne font pas directement de la publicité pour leurs activités, mais enfin, ils se font connaître comme étant des acteurs intéressés. Ils soignent leur image. Ils font circuler de l'information économique utile, donc des conférences. Voilà, je ne sais pas si tu as tweeté, Christian, sur cette magnifique conférence, mais enfin, voilà. Des conférences, des concours, des formations. Voilà, donc ils font circuler des informations. Ils annoncent des événements. Voilà. Et donc, ils créent, tous ces acteurs ensemble, ils créent une sociabilité intéressée. Hein, donc, intéressé à double sens, intéressé politiquement, enfin, au sens où il fabrique une cause, et intéressé économiquement, au sens où il fabrique par un certain nombre une façon de gagner leur vie. Et ce qui est très intéressant, parce que quand on est comme moi à se demander ce que c'est l'impact investing, mais en fait, finalement, ils font exister quelque chose qu'on appelle l'impact investing. Ça parle, vous savez. Donc, des fois, ça parle d'impact investing. Donc, au moins, il faut exister la chose. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais ils le font exister, ne serait-ce qu'en parlant. Voilà. Et donc, ce que je disais, ils construisent en même temps une cause et une normativité managériale, des bonnes pratiques et le monde économique avec ses relations, etc. Alors, Après, vous allez voir les premiers résultats. Alors, les limites. Les limites du travail que je vais vous montrer. Donc, tout d'abord, tous les acteurs influents ne sont pas sur Twitter. Par exemple, Sir Ronald Cohen, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il arrive de façon extrêmement tardive. Je crois qu'il arrive en 2020. Donc, c'est les institutions qu'il a contribué à fonder arrivent bien avant, mais lui-même, comme Twitter, il arrive assez tardivement. Donc, il y a des gens qui ne sont pas sur Twitter. Bon. Ensuite, bien entendu, ça dépend de l'usage de Twitter selon les pays. Donc, si vous regardez, par exemple, là, voilà, donc ça, c'est une extraction, donc le nombre de comptes Twitter selon les pays. Donc, vous voyez que c'est très développé aux États-Unis. Alors, il faudrait rapporter à la population. Le Japon, l'Inde, le Brésil, voilà. Alors, chez nous, ce n'est pas si mal développé. Parce qu'il y a 10 millions de comptes Twitter. Je ne sais pas, 70 millions. Voilà. Mais donc, évidemment, s'il y a des pays, si des pays, certains pays, disons que les Twitter est moins utilisé, on pourra bien moins regarder ce que fait l'impact investing au pays si Twitter est moins utilisé. Voilà. Ça dépend aussi, bien entendu, de la politique de gestion du et des comptes Twitter. Donc, il y a un certain nombre de comptes qui sont objectivement tenus par des gens qui font du management de réseaux sociaux. Et puis, il y en a d'autres qui sont tenus par des personnes X ou Y et qui n'ont pas forcément de ligne éditoriale, etc. Donc, ça aussi... Alors, le pari, c'est qu'évidemment, la masse va venir en partie gommer ce genre de presse. On a un biais linguistique. Parce que pour extraire les tweets, on va utiliser des mots-clés. Donc, quel est le langage qui est utilisé par les acteurs qui parlent d'impact investing? Donc, la première sélection que nous avons faite, on l'a faite avec les mots anglophones, impact investing, social impact bonds, etc. Donc, ça nous empêche d'attraper un certain nombre, bien entendu, de pays. Et puis, on l'a fait avec, je devrais ajouter, avec des caractères latins. Donc, par exemple, attraper des comptes thaïlandais ou attraper des comptes, certains comptes, on ne peut pas les attraper avec ces mots-là, sauf si ces gens-là tweetent en anglais. Et puis, on a un dernier point, c'est que... Twitter est radicalement démocratique, enfin en tout cas a priori, puisqu'il suffit d'avoir un compte pour compter une personne et une voix. Mais bon, si c'est le compte, du gouvernement français, comme le gouvernement français tweet sur Twitter, évidemment, il a beaucoup plus de poids que si c'est le compte de quelqu'un d'autre. Et donc, on a une question de taille d'acteur. On a des acteurs qui peuvent avoir 10 comptes, par exemple, donc avoir 10 voix. Voilà. Bref, donc c'est des questions classiques, mais c'est un... Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a constitué donc deux bases. On a fait d'abord une base mondiale, à partir de mots-clés anglophones. Donc, je vous donne. Et puis, on a fait une deuxième base, qui est une base française, qui est constituée à la fois des comptes qui sont français de la base anglophone, donc de gens qui tweetent en utilisant des mots-clés anglais, anglophones, plus des comptes qui tweetent avec le vocabulaire français. Investissement impact, finance impact, contrat impact. D'accord ? Donc on a fait deux bases. Alors, les principes, pour les fanatiques de méthodologie, on lance une collecte de tweets en utilisant les mots-clés. Donc, c'est pas moi qui ai fait ça, ce sont les équipes de Camille. Je ne peux pas vous dire comment on fait. On récupère donc des centaines de milliers de tweets. À partir de ces centaines de milliers de tweets qui sont un peu nettoyés, etc., on va identifier les comptes qui ont fait ces tweets. Évidemment, on se retrouve avec des quantités absolument astronomiques de comptes. Il faut quand même imaginer tous les gens qui ont parlé une fois d'impact investing dans leur vie, surtout qu'on a lancé la collecte depuis le début de l'impact investing. Donc, on parle d'une collecte qui démarre en 2008. D'accord ? Donc, ça fait une très grande profondeur. Et Donc, l'une des premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va exclure ce qu'on a appelé les touristes, c'est-à-dire des personnes qui passent sur le sujet très peu de temps, et donc qui ont fait moins de 2 tweets en 365 jours. C'est-à-dire, pour pouvoir rester dans la base, il fallait qu'ils aient tweeté au moins 2 tweets à 365 jours d'écart. Et donc, ensuite, on en avait encore 200 000, je crois. Et ensuite, on s'est dit, il faut qu'on réduise encore, parce que travailler avec 200 000 comptes, qui s'ils font que 2 tweets dans l'année, c'est pas beaucoup. Et donc, on a décidé de sélectionner sur ces bases des comptes qui sont à la fois influents. Donc, pour mesurer l'influence, on prend le nombre de followers. Donc, le nombre de followers en 2021, parce qu'on n'a pas l'histoire des followers, donc, le nombre de followers aujourd'hui. Et le nombre de tweets qu'ils ont fait sur 12 mois. Alors, on a fait une règle un peu étrange. Voilà. Le décile de followers. Donc, si on a beaucoup de followers, par exemple, si on est dans le décile 10, beaucoup de followers, mais qu'on a fait que 2 tweets, on est dans la base parce qu'on est très influent. On n'en parle pas beaucoup. On parle pas beaucoup de l'impact investing, mais on est très influent parce qu'on a beaucoup de followers. Et en revanche, quelqu'un qui est très peu influent, mais qui tweeterait énormément, par exemple, qui ferait un tweet par mois, ils ne sont pas énormes, mais un tweet par mois sur Impact Investing, à ce moment-là, cette personne-là est aussi dans la base. Voilà. OK ? Voilà. Donc, ça nous donne ça. Donc, la base globale, on est tombé donc à 16 000 comptes quand même, dont 243 Français. Et puis, la base française, on a 360 comptes. Donc 22 qui utilisent tantôt la terminologie anglophone, tantôt la terminologie francophone. 117 qui ne parlent que avec les mots-clés français et 221 qui ne parlent qu'avec les mots-clés anglais. Voilà. Donc voilà le bagage de départ. Enfin, je dis ça, le bagage de départ. Le bagage de départ aujourd'hui, on est parti avec moins que ça, mais bon. Voilà. Alors, donc nos 16 000 comptes, donc ça nous donne. C'est un graphique qui nous raconte l'arrivée d'un compte. C'est-à-dire à partir de quand un compte donné a commencé à tweeter sur l'impact investing et l'attrition de cette présence sur Twitter. D'accord ? Donc, par exemple, on voit qu'en 2015, on a 2430 comptes Twitter qui arrivent sur la thématique, qui arrivent suffisamment, qui font suffisamment de bruit et qui ont suffisamment de followers pour être retenus, vous avez bien compris, hein, dans notre panier. Mais de ceux qui sont arrivés là, l'année d'après, il en reste plus que la moitié. D'accord ? Donc, ça nous donne l'attrition générale des comptes Twitter. Alors, ça, c'est la base globale. Donc, vous voyez que là, on a un pic en 2018. Donc, le moment maximal d'intérêt pour la thématique, c'est 2018. Et puis ensuite, ça ne cesse de baisser. Voilà. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a quand même des gens, de façon importante, qui sont arrivés il y a très longtemps et qui sont toujours là. Donc, c'est ce qu'on a appelé, nous, le vieux cœur, le old core. Voilà, donc, et donc, qui sont ces acteurs-là, qui sont donc des acteurs centraux du champ, qui, depuis 13 ans, s'intéressent, font circuler des informations. Okay. Alors, ça, c'est toujours sur la base globale, la base mondiale. Ça nous donne une image un tout petit peu différente, parce que ça, c'est un graphique qui rend compte des comptes qui sont les principaux influenceurs. Alors, qu'est-ce que c'est un influenceur ? Alors, c'est un compte qui est beaucoup retweeté. Voilà, d'accord ? Un compte qui est beaucoup retweeté. Et donc, on a pris les 100 comptes. Enfin, on a pris... Camille a extrait les 100 comptes. C'est lui qui arrive à faire les algorithmes. Voilà. Donc Camille a extrait donc les 100 comptes de chaque année qui sont les plus retweetés et on s'aperçoit et on regarde la date à laquelle ils arrivent sur la thématique. Et donc, comme vous le voyez, alors que le pic est en 2018, l'arrivée des influenceurs, des gens les plus influents, elle est en 2011. Alors, la base française, elle nous donne une image assez différente. Vous vous souvenez que sur la base anglo-saxonne, enfin avec les mots-clés anglo-saxons, ça ne veut pas dire, il y avait une chute assez importante à partir de 2018. Et vous voyez qu'en France, on a un plateau. C'est-à-dire que ça s'installe en 2017 et ça reste. Grosso modo. Hein, voilà. Donc voilà pour la description. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant à noter, donc qui vous permet de commencer à voir la singularité française. C'est que chez nous, la thématique n'est pas partie, n'est pas encore repartie. On essaiera de comprendre pourquoi. Voilà. Alors, d'autres petits éléments sur la distribution géographique. Donc là, on est retour sur la base globale. Donc vous avez là les pays qui sont concernés par ces fameux comptes. Et donc on voit, on voit grosso modo le pic de 2018. D'accord. Et ça nous permet également de voir quels sont les pays centraux. Donc vous voyez que les États-Unis ont fait 40% en gros du bruit, 40%, 43% du bruit sur ces questions-là. Les Anglais, les Britanniques, 17%, puis les Canadiens, puis les Australiens. Voilà. Ensuite, on a mis ensemble des acteurs qui ne déclarent pas leur géographie, qui mettent global, donc on les a considérés global là. Voilà. Et puis, vous voyez, donc la France arrive à la fois très loin derrière en nombre de tweets, mais. Et puis ensuite, on a toute une tripotée de pays, mais qui font moins de 1% du bruit. Voilà. Donc on voit que la mode, on pourrait dire que c'est une mode, hein, la mode se dessine à peu près partout. Alors, quand je dis, on peut dire que c'est une mode. Voyez, en termes de constitution d'un monde social, on pourrait se dire deux choses. Soit c'est une mode, c'est-à-dire ça vient et ça va passer. Soit ça fait du bruit, ça fait du frottement sur Twitter quand c'est en train de s'instituer, parce que c'est ce qu'on appelle des moments chauds, hein, des moments chauds où il y a des frictions sociales. Et puis ensuite, une fois que les acteurs ont pris place, que le marché est créé, il n'y a plus de raison de faire autant de bruit, finalement. Les positions sont prises, on rentre dans un système de routine. Donc, on pourrait aussi expliquer la réduction, disons, de l'activité par la réussite. Donc ça, on n'est pas encore capable de dire si c'est de l'institutionnalisation ou uniquement le phénomène de mode qui explique cette courbe-là. Voilà. Donc là, on est à l'intérieur des États-Unis. Vous avez vu que c'était 40% de l'activité. Et donc, on s'aperçoit, donc là, on a tous les États américains, et donc, on s'aperçoit qu'il y a trois États, qui ne sont pas du tout étonnants, trois États qui mènent la danse, donc la Californie, avec 20% des tweets, l'État de New York, avec 17%, et District of Columbia, qui est un tout petit État, mais c'est Washington, en fait, c'est près du gouvernement, tout petit État en termes de population, etc., grand par le poids politique avec 13%. Donc, voilà. Donc ça nous situe aussi l'espace de. Voilà. Et puis le Massachusetts qui vient, mais quand même un peu après. Dans Massachusetts, c'est l'endroit où il y a les business schools, il y a l'MIT, il y a McKinsey. Voilà. Donc c'est normalement, au Massachusetts, en termes de. Quand on fait la sociologie des modes managériales, il y a beaucoup de choses qui partent du Massachusetts. Hein. Voilà. Autour de. Voilà, bref. Alors, ça, c'est un graphique c'est beau, hein. Donc, qu'est-ce que c'est? On en a fait un certain nombre, je vous en montre un parmi d'autres. Donc, ça, c'est un graphique qui porte sur l'année 2015 et qui figure des liens de retweet. D'accord. Donc, les acteurs qui sont gros, ce sont des acteurs qui sont beaucoup retweetés. Ce sont des acteurs influents. D'accord. Et ils sont là, comme vous le voyez, codés en fonction des couleurs. Et sur ce graphique-là, on a gardé que les comptes anglo-saxons. Hein, donc, le Royaume-Uni, le Canada et les trois principaux États américains et l'Australie. Et vous voyez, donc là, on le voit très bien, c'est pour ça que j'ai choisi ce graphique-là. On s'aperçoit que les liens de retweet sont des liens majoritairement nationaux. Ce qui est assez logique, mais en fait, et c'est un résultat assez classique dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que le lien électronique est souvent doublé d'un lien un lien hors ligne, en fait, ou en tout cas d'une connaissance ou d'une sociabilité hors ligne. Et donc là, on le voit très bien, c'est-à-dire que les Américains parlent entre eux, les Anglais parlent entre eux, etc., ou se retweetent entre eux, etc. Donc ça, c'est un cas assez classique, mais disons qu'on était quand même très, très content de retrouver, disons, donc un des premiers résultats, si on peut l'appeler comme ça, c'est qu'il y a quand même un atterrissage de la notion avec une constitution de mondes sociaux qui vont être séparés et qui sont très largement liés aux différents pays. Hein. C'est-à-dire que les acteurs vont travailler ensemble à l'intérieur des différents pays. C'est rassurant, si vous voulez, de trouver ça. Une fois qu'on l'a trouvé, ça semble évident, mais sur le coup, on était content quand même de trouver ça. Alors, donc ça, c'est une autre façon de faire des réseaux qui ne sont pas donc des réseaux tout simples de retweets. Ça utilise une technologie de block modeling. Alors, je vais essayer de vous le dire avec mes mots à moi, puisque c'est en gros, ça agrège des comptes qui se comportent à peu près de la même façon. Donc, au lieu d'avoir plein de petits comptes, on a des groupes, des blocs. Vous voyez, un bloc de 2, un bloc de 15, un bloc de 80, qui, grosso modo, ont le même comportement sur Twitter. Retweetent, en gros, les mêmes types d'informations. Hein, OK ? Et donc, on s'aperçoit à nouveau, là, on le voit très bien, on s'aperçoit à nouveau des configurations très nationales avec un point important. Comment dire, les comptes américains sont retweetés en partie par des comptes, d'autres comptes, mais on retrouve les configurations nationales. Et puis on s'aperçoit de quelque chose dans les noms. Vous voyez, il y a des tout petits nœuds. Alors, que je ne dise pas de bêtises, vous voyez, ça, c'est un tout petit nœud de 4 comptes. Vous voyez qu'il y a un tout petit nœud de 4 comptes qui fait le lien. Donc là, on a un tout petit nœud de 2 comptes qui fait le lien entre. Donc, c'est-à-dire que la passerelle entre l'Australie et le monde, ça passe par 2 comptes. On pourrait dire 2 acteurs. Hein. Voilà. Là, ça passe par 4 comptes. Hein. Donc, Alors ça, pour. Pardon, parce que faut pas que j'oublie de parler aussi pour Camille Roth, qui est vraiment désolée de ne pas avoir pu être là. Mais là, c'est un problème de conflit d'agenda. Un point qui est important, pour lui. Donc ça, c'est un autre graphique. Et voilà, la couleur des nœuds est dépendante du nombre de la centralité du nœud. Donc, c'est-à-dire de l'importance du nœud de l'influence du nœud. Voilà. Donc, plus on est noir, plus le nœud est noir, plus le nœud est influent et retweeté par l'ensemble par un grand nombre de personnes. Donc, les noirs, c'est le premier quartile, donc c'est les 25% des nœuds qui sont les plus retweetés. Voilà. Et donc, ce dont on s'aperçoit, vous voyez, c'est que ce petit groupe de 4 est extrêmement puissant puisqu'il est tout noir. D'accord ? Donc ce ne sont pas seulement des gens qui font des passages, mais ça fait partie des acteurs qui sont les plus retweetés. Ce qui veut dire, et ce sont aussi, donc voilà, le groupe de 4, on en parlait tout à l'heure, ce petit groupe de 14 dont j'avais donné la liste tout à l'heure aussi est très très noir. Donc on a des tout petits groupes d'acteurs extrêmement influents parce qu'ils sont très 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 tweetés. Voilà, j'ai trouvé le truc. Donc le point clé ici, c'est que classiquement, quand on fait des études de communauté, si on a 2 communautés, disons la rouge et la bleue, les personnes qui font les ponts entre les communautés, ce sont des marginaux. Hein, c'est la théorie des marginaux séquents. Donc, ce sont des gens qui sont marginaux dans les communautés et qui vont faire des liens entre les communautés. Or là, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce ne sont pas les marginaux qui font les liens entre les différentes communautés. Ils sont tellement pas marginaux que ce sont même les plus puissants, on pourrait dire, les plus puissants du champ, puisque ce sont les plus retweetés. Donc, en termes d'analyse de réseau, c'est très original si on se dit qu'on compare des différentes communautés. En revanche, si on étudie une mode managériale, Ça veut tout simplement dire que ceux qui font le passage transnational, ce sont les acteurs les plus visibles et les plus gros, en quelque sorte. Voilà. Ce qui semble logique aussi, si vous voulez. Hein, mais qui est, en termes d'analyse de réseau, très, très étonnant. C'est-à-dire que ceux qui sont les gatekeepers, en fait, ce sont les gens les plus dominants. Ce sont les dominants qui traversent, qui font la... qui construisent les échanges internationaux et ce ne sont pas des marginaux séquents. Avec... Et ce qui est aussi étonnant, par exemple, puisque Camille a beaucoup travaillé sur des communautés académiques, dans les communautés académiques, en fait, ce sont souvent des gens qui sont marginaux dans les communautés académiques qui font circuler des innovations. Enfin, donc là, on est dans une construction très différente de circulation d'innovation, puisque ce ne sont pas les marginaux qui font ça. Voilà. Alors, ensuite, en termes de, on a fait un travail donc, sur les catégories d'acteurs. Donc là, c'est juste pour vous donner une des représentations qui existent donc, dans un texte académique, peu importe, qui parle de l'impact investing. Donc dans ce texte, en fait, il identifie donc, vous voyez, donc, voilà, 5 types d'acteurs, donc les investisseurs, des consultants, des gérants de fonds, des investis, des entreprises investies, un entreprise sociale, et puis des organisations de réseau qui organisent des forums, etc., la circulation d'informations. Donc nous, on est parti de ça et on a rajouté donc, des classes. Donc on a 12 types d'acteurs. Donc des acteurs de la chaîne d'investissement et de financement. Donc on en a de 4 types. Voilà, donc on retrouve les types qui étaient sur le schéma d'avant, donc des gens qui font du conseil spécialisé, hein, c'est très important, sur l'impact, question sociale, des réseaux qui sont spécialisés sur l'impact social ou l'entrepreneuriat social, des gens qui sont spécialisés sur la finance sociale et des organisations de l'économie, de l'entrepreneuriat social ou de l'économie sociale et des ONG. Alors, j'étais un peu déçue de devoir faire une décatégorisation comme ça, parce qu'en fait, on agrège des gens, vous voyez, on agrège par exemple sous finance à impact, finance sociale, on agrège des gens très différents, comme pour la France, d'anciens financeurs solidaires et par exemple les nouveaux fonds d'impact investis. Pour les consultants, c'est pareil. On a des gens qui font de la mise en relation. On a beaucoup aux États-Unis des gens qui disent vous voulez faire le bien avec votre argent, je vais vous trouver une cible. Et donc, vous, voilà. Des gens qui font de l'intermédiation, des boutiques de d'impact investing. Et en fait, j'aurais voulu, moi, qu'on... être beaucoup plus fine dans les détails, dans les catégories, mais le problème qu'on a, c'est que les acteurs changent et souvent ils font plein de choses en même temps. D'accord ? Ils font des tas de choses et donc c'est très difficile de les mettre dans des catégories fines. Donc voilà. Ensuite, il y a 3 types de producteurs de cannes. Donc, donc ce que l'on a appelé des knowledge brokers, donc qui sont en gros les business schools. Donc les business schools sont extrêmement présentes sur cette question. Quelques think tanks et puis quelques auteurs d'ouvrages à succès. Voilà. Ensuite, un paquet complet avec tous les acteurs philanthropiques, ce qui n'est pas une très bonne. Vous voyez, je fais la critique des catégories en même temps, ce qui est aussi un peu gênant parce que les acteurs philanthropiques. Il y en a un certain nombre qui font du conseil, il y en a d'autres qui montent des réseaux, il y en a d'autres qui investissent, donc il y a un certain nombre d'acteurs philanthropiques qui font tout ça. Voilà. Mais c'était très difficile, encore une fois, donc il y a une catégorie qui prend donc, tous les acteurs, donc en gros toutes les fondations et tous les réseaux des fondations. Et puis enfin les acteurs publics aussi, là c'est une grosse catégorie, celle-ci on pourrait peut-être l'éclater, mais dans lesquelles on a des gouvernements, les agences, je suis désolée pour la faute, des agences publiques, toutes les organisations onusiennes, les banques publiques de développement et les acteurs, le personnel politique. Et puis enfin, qui est entre guillemets périphérique, des gens qui ne sont pas censés, qui ne sont pas normalement au cœur du, du système et qui sont donc des gens de la finance classique. Donc en France, ça sera BNP, Société Générale, etc. Les conseils classiques, donc vous avez tous les big et toutes sortes de gens qui font du conseil. L'écosystème entrepreneurial, donc en sortant l'écosystème de l'entrepreneuriat social, mais tous les gens qui font du venture capital, des incubateurs, etc., mais qui ne font pas ça dans le secteur social sont là. Et puis enfin, tous les médias, sauf ceux qui sont spécialisés, parce que ça aussi, en faisant ce travail, on s'aperçoit de la quantité de médias absolument monstrueux. Donc il y a le média, le journal spécial des philanthropes, le journal spécial de l'entrepreneuriat social, etc. Donc ceux-là, ils ont été mis dans leur catégorie respective. OK, et divers quand on ne savait plus quoi faire. Alors, donc, voilà la distribution du fameux vieux cœur. Le vieux cœur, je vous ai dit, c'est des gens qui sont arrivés avant 2012 et qui sont encore là aujourd'hui. Ils sont 316. Donc c'était plus facile à faire, travailler ça à la main. Vous voyez le codage. Donc on est sur la base globale. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que quels sont les comptes les plus présents ? Ce sont les consultants. D'accord ? Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y en a des tas, il y a des tas de gens, des tout petits consultants. Donc on s'aperçoit, une première conclusion, à brûle-pourpoint, c'est que ceux qui font exister le monde de l'impact investing, c'est cette armée de petites abeilles qui bruissent impact investing, conseil, intermédiation, etc. Et qui ont besoin d'une présence sur un média gratuit qui est Twitter. Bon, les financiers qui en font aussi. Donc ça, ce qui est marquant, en tout cas, dans la base globale, c'est le besoin de communication, ce qui n'est pas forcément évident dans d'autres champs de la finance. On n'a pas forcément besoin de communiquer autant. Et puis, les gourous et les business schools qui arrivent assez vite. Alors, ça, c'est la base. Donc, ça, ce sont les gens qui sont là depuis 12 ans et qui tweetent de façon continue. Et qui, enfin. En face, ce n'est pas exactement le même périmètre, c'est la base française. Donc là, on n'a que le vieux cœur. Là, on a 100% de la base. D'accord ? Et donc, la base française, elle nous donne des choses assez différentes. Bon, d'abord, on a les divers. Donc, je n'ose pas dire le tout venant, mais on va voir ce qu'il y a dans le tout venant. Mais ils sont évidemment nombreux. Et puis, on s'aperçoit qu'en France, on a une hiérarchie des comptes qui est un peu différente. Voilà. La finance classique, elle est extrêmement présente, au moins en termes de nombre de comptes en France. Donc on peut se dire, peut-être qu'en France, ce monde-là, il est en partie fabriqué par les gros acteurs financiers français. Ensuite, on a les acteurs publics, également très présents, alors que, vous voyez, dans les gens qui ont construit l'impact investing au niveau global, on est sur le même type d'effectif, 316, il y a beaucoup moins d'acteurs publics. Et puis enfin, les acteurs philanthropiques, qui sont quasiment absents en France. Ce n'est pas du tout étonnant quand on connaît le système français. Hein, on a des acteurs philanthropiques peu nombreux, etc. Alors vous allez me dire, mais ça c'est 100% des Français, ça c'est seulement les plus actifs, vous ne pouvez pas comparer les choux et les carottes. Donc on ne peut pas encore vous donner exactement la même chose, parce que c'est 16 000 comptes, alors pour les coder à la main, je pense que j'arriverai pas au bout. Mais un petit sondage sur la base de 2015, donc là c'est un tirage au sort de 100 acteurs de 2015, et vous voyez c'est encore pire si j'ose dire. Ceux qui font du bruit, disons, en moyenne, là, si on a, vous voyez, donc les consultants, ce sont eux qui parlent d'impact investing, les médias, c'est logique, ça, en fait, ils sont présents, ils sont très présents, ils font circuler l'information, mais vous voyez, donc conseil classique, conseil impact. Ensuite, l'écosystème entrepreneur, ce sont que des petits acteurs, en fait, tout ça, parce que ce sont. Voilà, un incubateur, je ne sais pas où, dans telle ville, qui tweet, etc. Et donc, vous voyez que sur la base globale, ces acteurs-là sont finalement très peu présents, alors qu'en France, vous voyez, l'acteur public et la finance sont dominants. Alors, cela dit, dès qu'on connaît un petit peu le système sociopolitique français, on n'est pas très étonné, en fait. Hein. On a une structure une organisation de la finance en France avec très peu de très gros acteurs, une très grande proximité avec les pouvoirs publics. Donc ça, ça a été décrit et redécrit par les travaux d'économie politique. Donc voilà, donc l'impact investing ne fait pas, n'échappe pas à la règle. C'est une pratique financière qui est fabriquée en partie, enfin en tout cas poussée en partie par ces deux acteurs qui travaillent la main dans la main. Voilà. Alors, toujours sur les catégories d'acteurs, ça c'est on est sur le vieux cœur. Donc là, on commence à avoir des effectifs qui ne veulent pas plus grandir, plus dire grand-chose, mais ce n'est pas inintéressant de voir ce que ça donne sur les fameux États américains. Hein. Et donc, vous voyez, à vue de nez, la District of Columbia, évidemment, on a les acteurs publics, et on a, vous ne voyez pas forcément, mais disons qu'en Californie, vous avez beaucoup plus, l'écosystème de start-up, etc. Et puis à New York, en fait, c'est là que vous avez la finance classique. Donc en fait, aux États-Unis, ce qui nous va être centralisé, tout à Paris, disons, en gros l'écosystème, le secteur public et la finance, ben, eux, c'est éclaté dans différents États. Alors ça fait partie des choses qu'il faut qu'on travaille, mais donc il y a une géographie du pouvoir qui est un peu différente. Voilà. Alors, je vais descendre donc dans le cas français. Alors, donc vous êtes tous en France, donc vous devez connaître l'histoire plus précise du cas français. Donc, je ne vais pas rentrer dans toute la chronologie, mais quelque chose qui est intéressant, c'est de couper avec les deux quinquennats. Donc, d'abord le quinquennat Hollande. Et on va voir que ça commence avec ce quinquennat, surtout avec le gouvernement Valls II et donc Martine Pinville, qui est donc secrétaire d'État. Donc là, vous avez différentes dates donc sous Hollande, avec donc les premiers rapports voilà, qui existent. Donc vous voyez que là, on a à la FIC, il y a quelques 2-3 impact investors qui se sont déjà créés, qui ne s'appellent pas d'ailleurs comme ça à l'époque, mais qui crée une commission en 2012. On a le fameux rapport du comité français de 2014. Et puis, ce qui va... un des points clés où on va arriver, donc le gouvernement, c'est à partir du lancement du premier appel à contrat impact social avec Martine Pinville, donc en 2016. Donc là, quand il y a un petit truc rouge comme ça, ça veut dire que c'est des pics dans la chronologie française. Je vais vous remontrer tout à l'heure. Alors, j'ai mis pour mémoire Christophe Ithier, président du MOUVES. Donc, vous savez que Christophe Ithier a été à un moment donné au commissaire à l'économie sociale et solidaire. Juste avant, il est président du MOUVES. Le MOUVES, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux. Et juste avant, ou en même temps, enfin, en tout cas, il était directeur de la sauvegarde du Nord et il avait voulu créer un contrat impact social. Donc, il était donc déjà investi dans ces questions-là. Alors voilà. Donc là, on vient de faire donc 2016, vous voyez. Donc ça, c'est le premier pic. Alors, ça, ce sont les dates des flux. En fait, c'est des années, ce sont des années académiques. Voilà. En gros, le premier initiative gouvernementale, elle est là, disons. Et puis, donc, on a le quinquennat Macron avec deux moments. Enfin... du côté du commissariat à l'économie sociale et solidaire, on a d'abord la période Ithier, et puis ensuite, suite au remaniement, etc., la période Olivia Grégoire. Alors, donc, Ithier, quand il arrive, il va lancer plein de choses. Il va poser le mot impact à peu près sur tout ce qui bouge. Donc, notamment, il va lancer de French Impact, etc. Donc, il y a beaucoup de communication sur ces questions-là. Donc je ne vais pas... Voilà, donc, il continue, en fait. Il continue, voire il accélère ce qui avait été initié sous Hollande, puisque lui, c'est quelqu'un qui croit très fortement. Hein. On a la continuité française de l'administration, ça. Donc, on change de haut commissariat, mais les choses continuent. Enfin, le secrétaire d'État, les choses continuent, vont continuer donc sous Olivia Grégoire, puisque, voyez, donc sous Ithier, on a le Alors, il est où? Voilà, c'est sous le, il va y avoir le rapport L'Avenir qui va être produit, qui fait le bilan des contrats à pacte social. La BNP contribue à fabriquer des nouveaux des guides méthodologiques, etc. Ils ont l'aide de ILAB, qui est une officine qui s'est créée dans la suite du rapport de 2014. Et puis, sous Olivier Grégoire, on a la continuité des choses. Donc, on a l'histoire française, c'est quand même quelque chose qui est assez marquant. Vous savez, je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait une sorte de plateau, en tout cas sur Twitter. Mais il y a aussi un investissement constant, on pourrait dire, des pouvoirs publics autour de ces questions. Voilà. Et puis, il se passe des choses en dehors. Hein. C'est-à-dire que là, on a le groupe de place, on a Europlace qui s'en occupe. Et puis, il y a des réorganisations du secteur social que je n'ai pas le temps de développer, dont la fusion ILAB-Finansol, des relabellisations, le MOUVES, vous voyez, regardez, c'est marrant, le MOUVES qui devient Impact France. Je dis, l'impact, la terminologie d'impact se développe partout. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous redonner un petit peu d'histoire. Et donc, vous voyez, les trois pics, on peut dire, tac, 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 et donc c'était les trois moments rouges. Voilà, alors, donc ça c'est un graphique qui nous donne la date d'arrivée sur la thématique des comptes français. Donc c'est pas une décrue, hein, on est d'accord ? C'est quand est-ce que les comptes arrivent ? Ça nous dit pas s'ils sont encore là la fois d'après. Vous avez vu que, en fait, ils sont remarquablement stables, les comptes français. Il y a très peu d'attrition. Les comptes globaux, il y a la moitié qui disparaît l'année d'après. En France, c'est une attrition qui est beaucoup plus faible. Et voyez ce qui est très... Et qui porte la croissance. Ce dont on s'aperçoit, c'est que au tout début, disons les premières années, le vert, ce sont en gros les business schools. Donc, ce sont les business schools sont présents, sont importantes dans l'arrivée, en tout cas sur Twitter, de la thématique. Et en rose, c'est en gros les acteurs, les consultants du social. Les entreprises sociales, les mouvements d'entreprises sociales, les financeurs sociaux. Donc, vous voyez qu'au départ, la notion, elle est prise en charge, elle est discutée, disons, à l'intérieur du monde de l'économie sociale, au sens large, et dans les business schools, et l'écosystème entrepreneur, et un petit peu dans le monde des start-up. Hein, voilà, donc c'est ça. Et puis... Ensuite, on a une croissance. Vous voyez qu'ici, le monde de l'économie sociale participe à cette croissance. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est deux pics, là, le pic de 2017 et le pic de 2019, qui est l'arrivée de la finance classique. En fait, c'est l'arrivée de la BNP, enfin, l'arrivée de beaucoup de comptes de la BNP, parce que la BNP a 18 comptes sur les 300. Sur les 300 égales, donc plein de comptes de la BNP, des comptes Donc l'arrivée de la finance classique, on va voir Europlace arrive en 2017, etc. Je crois que c'est l'année de Finance for Good, la création de Finance for Good, etc. Donc on voit que la croissance et le maintien, on pourrait dire le maintien de l'intérêt, il est largement porté par l'investissement, au sens au moins médiatique, des acteurs, disons, de la place de Paris. Voilà. Et puis, vous voyez, en bleu, là, ce sont les divers. Donc, ça peut être des gens très, très étranges. Alors, en revanche, les deux tiers de ceci, ce sont des comptes de militants LREM. Donc, ce sont les. Donc, je ne sais pas si c'est la campagne qui démarre, mais en tout cas, les comptes qui sont identifiés politiquement, en gros, ce sont principalement des comptes LREM qui tweetent donc, sur ces questions-là. Voilà. Bref. Donc, on voit là encore le poids, hein, le poids finalement de la finance dans la poussée et même dans le maintien. Et puis, peut-être des effets de campagne électorale sur la fin de la période. Alors, ça nous donne une image de type de mots-clés qu'utilisent les Français. Est-ce qu'ils parlent plutôt anglais ou plutôt français dans les mots-clés ? Est-ce qu'ils disent impact investing ou investissement impact ? Et donc ça apparaît, ça nous fait faire un petit peu de sociologie, c'est intéressant. Donc, les gens des start-up, ils parlent tous anglais. La finance classique, pas mal aussi, vous voyez. Ou parfois les deux, hein, pas beaucoup français. Le conseil classique, pareil, ils sont très anglophones. Les knowledge brokers, ben, c'est toutes les business schools, donc on parle anglais. Voilà, donc les acteurs publics, je vous ferai un truc, vous voyez, c'est intermédiaire, mais on va voir qu'il y a dedans, vous comprendrez mieux. Et puis voilà, ceux qui parlent français, ben, ce sont les médias, donc Le Monde dit pas impact investing, dit investissement impact. les réseaux francophones de l'investissement impact, ben, eux, ils parlent plutôt français, les philanthropes aussi, etc. Alors pourquoi les acteurs publics, on se dit comment c'est possible, les acteurs publics, ils parlent anglais, mais non, c'est pas vrai. Les acteurs publics, vous avez une catégorie très bizarre. Que dedans, vous avez ben, des acteurs publics, ils sont publics, c'est l'OCDE, donc on enlève. Une banque publique, celle-ci, c'est l'AFD, très internationale, elle parle anglais. La suivante, c'est BPI, ils ne sont pas très loin des start-up, donc ils parlent anglais et français. Là, il y a le fonds de pension public, qui parle anglais, lui. Alors, les hommes et les femmes politiques, ils parlent, ou les deux, ou français, quand même. Voilà, et puis là, c'est la banque publique, celle-ci, c'est la CDC, la Banque des Territoires, donc ils parlent plutôt français. Et puis l'État, la parole d'État, elle est avec des mots-clés francophones. Voilà. OK. Alors, et on arrive sur la fin de la présentation. Donc ça, ce sont des réseaux de retweet. Et vous avez donc l'évolution des réseaux de retweet 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en 2017, le monde est assez atomisé. Des gens parlent de l'impact investing, ne se retweetent pas. On pourrait dire qu'en termes de construction de monde social, on n'est pas dans un état d'anomie, mais disons que ça, bon, c'est pas très dense. Hein, voilà. Et puis, petit à petit, donc il y a une structure qui commence à se créer. Vous voyez, il y a Christophe Ittier qui est là. Et puis, à partir de 2019, ce qui est absolument incroyable dans le cas français, il y a une centralité complète, vous voyez. L'acteur le plus retweeté, c'est le haut commissaire ou la secrétaire d'État. Donc, c'est la centralité du système politique. Donc, on pourrait se dire que c'est une société de cour, en fait, puisque tout le monde retweet ce qu'a dit Ittier ou ce qu'a dit... donc ça nous donne des choses aussi sur les comportements sur Twitter de nos camarades. Et donc ce dont on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a une lente, disons, structuration, mais aussi une centralisation importante du réseau autour de l'initiative gouvernementale. En fait. C'est ça qu'on peut dire avec ça. Donc ensuite, si on peut tenter, alors ça c'est vraiment des interprétations à l'arrache, donc là, c'est les graphiques. Alors, on a enlevé des tas de gens hein, dans ces graphiques. Hein, des gens qui retweetent qu'une fois, des choses comme ça. Moi. Donc là, on est en 2017. Donc moi, ce que je vois avec mon regard à moi, c'est une relative séparation entre, disons, l'ancienne économie sociale, ouais, crédit coopératif, labo SS, économie.gouv, on a encore Martine Paville qui est là. Et puis, ce qui va devenir Tech for Good, donc on a Jean Moreau, on a l'ITA qui maintenant préside Impact France, hein, qui est donc la fin. Voilà, et puis on a donc Philippe Zawati, donc, qui est le président de Mirova, il est dans le All Core de la base mondiale, je vous le dis quand même, parce qu'on n'a pas beaucoup de All Core français, donc lui il y est. Donc il est là, et vous voyez ses liens à lui, bah, c'est avec Europlace, avec la finance, etc. Donc on a là la finance... à l'arrache, hein. La finance, disons, qui essaye de faire bouger les choses, la tech for good, donc les startups, etc., qui sont d'un côté et qui parlent pas du tout aux autres, hein, à la finance solidaire. C'est vraiment, on est sur des effets très légers, hein. Il faut quand même faire très attention. Camille dirait quand même, il suffit qu'il y ait deux tweets de plus, on rajoute une flèche. Hein. Bon, donc, faire attention quand même, mais je trouve que c'est intéressant de voir les choses. Donc en 2018, pour moi, donc on est sous Macron, là, avec un accélérateur, au moins politique, au moins médiatique, sur ces questions. Et donc là, la jonction, pour moi, se fait. Vous voyez qu'on a... la jonction, disons, entre l'ancienne économie sociale, qui a d'ailleurs en partie disparu, et ce qui compte, c'est plutôt Et puis, à partir de 2019, on a donc ce type de graphique très centré sur le gouvernement, avec néanmoins des zones qui ne sont pas inintéressantes à étudier. Donc, par exemple, celle-ci, là, vous voyez tous ces gens-là, ils sont tous à la BNP. Je disais, en fait, c'est ça qui est amusant, c'est que bon, j'ai décidé de tous les mettre à la BNP parce qu'ils sont, ils ont tous un rôle ou une fonction à la BNP. Donc, en fait, voilà, vous avez des gens de la BNP qui se citent entre eux et qui cite WeMove, qui est donc un des premiers contrats impact social qui a été structuré et financé par la BNP. On a un autre jeu du même genre ici, autour de la cravate solidaire, dont un des gros investisseurs est la CDC, vous voyez, donc ils parlent entre eux. Là, on a une petite grappe de personnes qui parlent de l'impact investing dans les pays en voie de développement, donc avec entreprises et partenaires, Jean-Michel Severino, Cerise, qui était au départ un évaluateur de microcrédit, Microfinance, qui est une institution de microfinance. Et puis là, vous voyez les acteurs de financiers avec de la finance classique, entre guillemets, Mirova, Zawati, Finance for Tomorrow, Europlace, BCPE, là, qui sont. Donc on a toujours, en fait, ce groupe-là, qui n'est pas complètement relié, en fait, aux autres. Voilà, donc là, c'est un autre petit jeu. De nouveau, là, la BNP se split entre eux. Là, ils font un autre groupe. On a de nouveau le groupe de la finance, toujours la centralité du gouvernement. Et puis, alors là, je trouve que c'est très intéressant, le graphique de 2021. Bon, là, il y a un effet. La taille, c'est juste pour mieux le voir. On aurait pu les rassembler. Mais ce qui est très intéressant, c'est que là, on commence à avoir deux groupes. On commence à avoir le groupe centré, donc on va dire la cour du gouvernement. Et puis, on commence à avoir la constitution au niveau de Paris Europlace, d'un groupe de place sur ces questions-là. Donc, qui commence à se peupler, vous voyez. L'ADG Trésor, d'ailleurs, joue dans ce groupe-là, beaucoup moins dans ce jeu-là. Bon, ils se citent hein, entre eux, mais... Voilà. Donc, c'était l'avant-dernier slide. Donc, ce sont des résultats intermédiaires, bien entendu. Donc, quelques petits points. Voilà, le pic d'activité en ligne 2018. Donc, la plupart des acteurs influents arrivent en 2011, 2012. C'est une histoire majoritairement nord-américaine et britannique. On a une chronologie à peu près similaire en France, mais pas de reflux. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut expliquer. Une structure de réseau avec une grande importance des clusters nationaux. Des acteurs qui dominent les clusters nationaux, qui ont aussi une autorité internationale, ce que je vous expliquais. Donc, les internationaux sont réalisés par les dominants des champs nationaux. C'est quelque chose qui est peut-être évident dans le domaine économique, mais pas dans le monde des réseaux sociaux. Un monde social, alors moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand on a récupéré ça, c'est-à-dire la quantité absolument invraisemblable de petits acteurs qui parlent de toutes ces choses-là. Camille a une très belle image, il dit ben, « c'est normal, on a fait baisser la mer ». C'est-à-dire que quand on travaille, comme moi, sur ces questions depuis quelques temps, ce qu'on voit, c'est les grandes communications, les grands événements, les grands rapports. Avec Twitter, on abaisse le niveau de la mer et puis alors on voit tous les petits crabes qui sont au fond de la mer, qui se promènent. Hein, voilà, donc tout ça, les petites abeilles qui fabriquent la biodiversité au quotidien. Et donc ça, c'est vraiment impressionnant. Je veux dire, des gens, on ne sait même pas ce qu'ils font, en fait. Je vais sur les sites web, je ne comprends rien. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites, vous ? J'agis pour le plus grand, le bien commun, etc. Je dis, ah, mais alors, c'est quoi, quelle est ton offre et tout ça. Des fois, c'est très compliqué à comprendre exactement ce qu'ils font, en fait. Donc, il y a une quantité absolument invraisemblable de gens qui font ce genre de choses. Voilà, surtout aux États-Unis. Et en France, bah, on est dans un mouvement qui est porté par le gouvernement avec cette espèce d'image de la société de cour et puis maintenant par la place de Paris. Voilà. 1h10.